Réplique, les Gilets jaunes, premier bilan, avec Denis Oliven et Dominique Régnier. Dur réveil pour ceux qui croyaient que la France était exclusivement composée des smart métropoles et des quartiers sensibles. Les Gilets jaunes ont fait irruption dans l'actualité et ils l'occupent à temps complet depuis 2 mois. Ils étaient la France invisible depuis l'acte 1 de la mobilisation et nous en sommes aujourd'hui à l'acte 9. On ne voit que, on n'entend que, on ne se dispute dans les talk-shows et dans les familles qu'à leur sujet. Et pour cause, ce mouvement n'a pas de précédent. On ne sait pas s'il est de droite ou de gauche. Aucun syndicat, aucun parti ne le dirige. Aucune organisation n'en émane. La violence des uns contraste avec la dignité des autres. Les doléances exprimées sous forme de sommation sont si hétéroclites et parfois si radical qu'il apparaît difficile d'y répondre. On attend impatiemment du gouvernement qu'il agisse, tout en se demandant anxieusement si le pays est encore gouvernable. Et l'on s'interroge. Le mouvement s'essouffle-t-il ou est-il en train de s'incruster? Va-t-on vers l'insurrection générale ou vers l'intégration des Gilets jaunes à la décision politique par le biais du grand débat national? Le fossé apparu entre les villes-mondes et les perdants de la mondialisation peut-il se résorber? La démocratie a-t-elle assez de ressources pour civiliser les passions ou doit-elle désormais composer avec la haine? L'horizontalité des réseaux sociaux met-elle toute verticalité, toute autorité et toute représentation en péril? Cette crise révèle-t-elle les travers du pouvoir jupitérien ou la faiblesse intrinsèque du pouvoir à l'ère de la communication et du tout-image? Pour répondre à ces questions qui nous tourmentent, tous autant que nous sommes, j'ai invité le politologue Dominique Régnier et Denis Oliven, qui a dirigé l'Obs au temps où il était encore le Nouvel Observateur et qui est chef d'entreprise. Commençons pour essayer de comprendre par faire un peu de sociologie. Qui sont les Gilets jaunes? À quelle classe, au singulier ou au pluriel, appartiennent-ils, Denis Oliven?
Sans doute sont-ils composites, mais il me semble qu'il y a un élément assez évident, c'est que la majorité de ces Gilets jaunes, et en tout cas du mouvement initial, ce sont ce que les sociologues appellent la classe moyenne centrale, ou ce que l'INSEE a appelé dans son portrait social de la France en 2017, en lui consacrant une étude particulière, les ménages à niveau de vie médian. Pourquoi à niveau de vie médian? Parce que ce sont les ménages qui, dans la distribution des revenus, sont exactement au milieu. Ceux qui séparent en deux, à 50% les ménages pauvres d'un côté, à 50% au-dessus d'eux, les ménages aisés ou très aisés. Quand on regarde le portrait qu'a fait l'INSEE, en 2017, de ces ménages à niveau de vie médian, on voit exactement les Gilets jaunes. Je vous donne quelques caractéristiques pour aller vite parce que c'est frappant. D'abord, ce sont des ménages qui sont à 85% des ouvriers ou des professions intermédiaires. Ce sont des ménages dont l'essentiel des revenus, j'y reviendrai, est le travail. Ce sont des ménages qui sont composés en règle générale de familles traditionnelles, à un couple avec un ou deux enfants, même si une part d'entre eux sont des femmes seules. Ce sont des ménages peu ou pas diplômés. Ce sont des ménages dans lesquels la proportion des immigrés ou des descendants d'immigrés est bien moins importante que dans le reste de la population, et en particulier les ménages pauvres. Et ce sont des ménages qui habitent pour moitié d'entre eux dans l'univers urbain, pour moitié d'entre eux dans l'univers des petites communes, des communes isolées ou du périurbain. Et c'est exactement, si on voulait synthétiser ça d'une manière que je mets entre guillemets pour bien montrer que pour ne pas reprendre à mon compte cette expression, ce sont les petits blancs. C'est une catégorie de la population qui n'est pas suffisamment pauvre pour bénéficier de la distribution massive d'aides et d'allocations sociales, mais qui ne sont pas suffisamment riches cependant pour avoir joui des effets de la libéralisation, notamment de l'évolution des marchés financiers et immobiliers sur leur patrimoine. Donc ce sont, et c'est cette classe moyenne centrale, ce sont les oubliés des politiques publiques depuis de nombreuses décennies. Ce sont les oubliés de la protection sociale et ce sont les oubliés de la libéralisation économique. Et j'ajoute que leur situation s'est dégradée au cours des dernières années, ce qui explique que quelque chose qui était lancinant est devenu explosif, et notamment, on pourra en parler, à l'occasion de l'augmentation des taxes et du prix du carburant, car quand on regarde les dépenses de ces ménages, les deux tiers de leur budget sont des dépenses contraintes, et le premier poste de ce budget, c'est le transport et c'est la voiture.
Bien, alors Dominique Régnier, est-ce que vous voulez compléter cette description?
J'approuve d'autant plus la présentation faite par Denis Oliven que, comme il a été dit, si ce sont les oubliés de toute une série de politiques publiques, ce ne sont pas les oubliés du fisc, et Denis Oliven l'a dit. Et il y a, de ce point de vue-là, dans la détermination initiale du mouvement, de mon point de vue, que cette population-là a ressenti fortement, un excès de prélèvements et un excès de réglementation que résume très bien la taxe carbone et le passage aux 80 km/h. Et je rappellerai simplement à nos auditeurs qu'entre 1958 et aujourd'hui, nous sommes passés de 31% de prélèvements obligatoires à 46%. Il n'était pas possible qu'il n'y ait pas à un moment donné une réaction de ce type.
Alors, pour aller dans votre sens, je citerai Laurent Davzy qui dit ceci. Pour expliquer justement la colère initiale, ce qu'on appelle les gilets jaunes ressentent une sorte de racket fiscal au profit du budget de l'État, dans la mesure où l'augmentation du prix ne leur fera pas réduire leurs déplacements, ce sont des dépenses contraintes, ils ont un sentiment compréhensible et raisonnable de payer plus que les autres pour la planète alors qu'ils sont plus vulnérables. Et il ajoute, la pluie de mesures gouvernementales qui ont déclenché la colère, prix du carburant, 80 km/h, contrôle technique, chaudière au fioul, est beaucoup trop concentré sur les populations périurbaines et rurales, et plus généralement modestes. La planète est en danger, ce sont eux qui menacent la planète, ils doivent payer. Ce syllogisme imbécile a fait énormément de dégâts. Vous êtes d'accord tous les deux là-dessus, mais arrêtons-nous quand même sur précisément la crise de la représentation, la crise de la confiance dans les politiques. Comment l'expliquez-vous et vise-t-elle exclusivement les politiques, Denis Oliven?
Si on poursuit sur l'analyse, disons, socio-économique, parce qu'elle est quand même, elle permet de fonder en raison, de montrer que ça n'est pas un mouvement irrationnel, mais que c'est un mouvement qui est légitime du point de vue de la réalité économique et sociale. Ce qui a fait exploser cette classe moyenne centrale, c'est à peu près 20% de la population française, hein, c'est entre 12 et 15 millions de Français. Ce qui l'a fait exploser, on l'a dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les taxes sur l'essence, compte tenu du poids des voitures dans la vie de ces classes moyennes. Mais si on regarde de manière plus approfondie, on voit que depuis la crise de 2008, ces couches moyennes ont vu leur situation se dégrader. Un certain nombre de mesures ont été prises qui les ont frappées toutes particulièrement. La refiscalisation des heures supplémentaires, le plafonnement du quotient familial, puisque ce sont des familles traditionnelles. Donc leurs revenus se sont détériorés. Et les analyses qui ont été faites récemment de l'INSEE sur l'évolution de ces revenus le montrent très clairement. Les deux populations qui ont payé le plus chèrement la crise, ce sont les plus riches, mais ça, tout le monde trouve ça légitime, mais ce sont aussi ces classes moyennes médianes. Mais ça prend fond sur un problème qui est plus profond, qui est plus ancien. Quand vous regardez sur longue période, leurs revenus se sont améliorés, mais elles ont décroché par rapport aux plus riches. leur écart par rapport aux plus pauvres est demeuré stable, mais elles ont décroché par rapport aux plus riches. Donc l'idée qu'elles allaient pouvoir s'enrichir par le travail et par l'épargne, cette idée-là a disparu, alors que c'était quand même le fondement de leur espérance, puisque, je le répète, l'essentiel de leur revenu, c'est le travail. Et puis, j'en ai fini là, cette détérioration relative récente de leurs espérances de progression sociale, prend fond sur quelque chose que Dominique a dit et qui est fondamental. Il y a un trait caractéristique du système de redistribution français qui n'existe pas en Angleterre, qui n'existe pas en Suède. C'est que dans le système de redistribution français, les pauvres reçoivent plus de prestations qu'ils ne payent d'impôts. Les riches reçoivent moins de prestations qu'ils ne payent d'impôts. Et les classes moyennes aussi reçoivent moins de prestations qu'elles ne payent d'impôts. Mais ce qui est le plus frappant pour la situation française, c'est que ce pourcentage de contribution aux charges communes en proportion de son revenu est le même pour ces classes moyennes centrales, pour ces gens à 1 700 euros, que pour les 10% des plus riches. Ça n'est vrai dans aucun autre pays. Dans les autres pays, c'est progressif. Plus vous êtes riche, plus vous contribuez. Donc leur ras-le-bol fiscal s'appuie sur cette situation qui est en effet inique.
Quand même, en France aussi, plus vous êtes riche, plus vous contribuez, Denis Oliven. C'est-à-dire que on sait par exemple que 10% des contribuables payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc le slogan que l'on entend « faire payer les riches » me semble pas tout à fait approprié, parce qu'ils payent déjà, ils payent de plus en plus. D'autant plus qu'une bonne moitié des citoyens français ne payent pas l'impôt sur le revenu.
Je n'ai pas dit qu'on ne faisait pas payer les riches, ce serait faux et on peut en parler si vous voulez. Ce que j'ai dit simplement, c'est que on a un système d'assurance sociale, de protection sociale qui est assurantiel. Vous recevez à proportion de ce que vous avez payé. Dans les autres systèmes, en Angleterre ou dans les pays sociaux-démocrates, c'est un système forfaitaire. Vous payez des cotisations et vous recevez un montant qui est plafonné. Si vous voulez davantage, vous prenez des assurances privées. Et c'est ce mécanisme-là qui fait que, en gros, c'est à partir du moment où vous êtes un contributeur à la redistribution, que vous soyez au milieu de la classe moyenne ou vous soyez en haut de la classe moyenne, proportionnellement à votre revenu, vous allez être à peu près dans la même situation. Et c'est ça qui est atypique en France. Donc le sujet n'est pas tellement de faire davantage payer les riches. Le sujet est de se concentrer sur ces classes moyennes pour traiter la situation inique qui leur est faite.
On peut ajouter à ça le fait que la manière dont sont traitées ces classes moyennes depuis pas mal de décennies est liée au fait que les gouvernements ont fait un raisonnement tout à fait mauvais, consistant à observer que ces classes sociales-là ne posaient pas de problème et en concluant qu'elles n'avaient pas de problème. Tant il y avait, du point de vue des gouvernants, l'habitude de voir les catégories éprouvant des difficultés l'exprimer dans des protestations diverses. Ces catégories-là, et c'est très douloureux même de le constater et d'y penser, sont restées d'une grande tranquillité, ont supporté cette dégradation de leur situation, on se sont toujours comportés de manière très civique, y compris électoralement, et on a déduit de cela donc qu'elles n'avaient pas de si grands problèmes. C'est pourquoi on a pu faire peser beaucoup d'efforts sur leurs épaules, en imaginant faire l'économie de coûts politiques qui consisterait à porter les efforts sur d'autres catégories, soit moins nombreuses mais plus influentes, soit plus nombreuses et plus redoutables du point de vue de leur poids politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que, vous le disiez à Finkielkraut il y a quelques minutes, l'argument écologique est proprement insupportable. La France est un pays qui ne carbone pas. Nous représentons moins de 1%. L'Allemagne, c'est 9 fois plus que nous, pour prendre un seul exemple.
Et ne parlons pas de la Chine ou des États-Unis,
en effet. Et nous le savons collectivement, même si nous ne sommes pas des spécialistes, que nous sommes vertueux. Et donc, il est encore moins facile de comprendre pourquoi on a cette politique fiscale visant à décourager l'usage de la voiture. On y reviendra, j'imagine, parce que c'est vraiment un sujet central. Et c'est apparu comme une idéologie, pardonnez-moi, de Parisiens. C'est apparu comme une idéologie de ceux qui n'ont pas besoin de la voiture, ceux qui n'imaginent même pas à quel point la voiture est nécessaire, développent une conception de du pays et du monde et même de l'écologie qu'ils font reposer sur nos épaules, alors même que nous ne pouvons pas, nous, provinciaux, c'est un des grands aspects, bien sûr, de cette affaire, vivre sans la voiture pour aller amener les enfants au judo, faire les courses, une démarche administrative, travailler, ou que sais-je. La voiture est indispensable, la bagnole, comme on a pu dire, est indispensable, et elle est devenue la trappe, le piège de ces classes moyennes.
Le piège des classes moyennes, et d'ailleurs, la division que vous soulignez semble s'aggraver encore, Dominique Régnier, puisque une pétition, l'affaire du siècle, a recueilli 1 500 000, bientôt 2 millions de signatures. Il s'agit d'assigner le gouvernement français devant les tribunaux parce que il ne respecte pas, justement, les normes écologiques. Au moment où il y a cette éruption des gilets jaunes, mais c'est révélateur du climat actuel. C'est pour ça que je vous demandais si le rejet de la représentation visait seulement les politiques. Il me semble que ces classes moyennes sont ou ont été le repoussoir de tous les progressismes. C'étaient les déplorables d'Hillary Clinton et de la Fondation Terra Nova. C'est bien pourquoi, justement, le gouvernement François Hollande, Jean-Marc Ayrault, François Hollande, a pu refiscaliser sans problème les heures supplémentaires. Et sur la scène culturelle, ils ne sont pas présents. C'est-à-dire, Paimpol apparaît aujourd'hui, Villeneuve-sur-Lot, Dieppe, Issoudun, mais sur la scène culturelle, il n'y en a que pour la déconstruction des frontières à tous les sens du terme, c'est-à-dire les migrants et les trans, pour appeler les choses par leur nom. Donc, il est vrai que les gilets, ces classes moyennes ont mis des gilets fluorescents pour qu'on les voit enfin. Il y a eu au départ une revendication d'existence et donc de dignité. Denis Oliven.
Mais ils sont très exactement dans l'angle mort des politiques économiques et sociales, dans l'angle mort du même coup des politiques tout court, et dans l'angle mort, en effet, sans doute, du discours culturel ou de la représentation que nous faisons de notre pays. Dans l'angle mort des politiques économiques sociales, ça me paraît assez évident, parce que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, que faisons-nous ? D'un côté, nous libéralisons l'économie, et de l'autre, pour essayer d'en diminuer l'impact, nous augmentons la redistribution sociale. Mais nous l'augmentons vers qui ? Nous l'augmentons vers les ménages les plus pauvres. Prenez le quinquennat Hollande, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, une fois encore, ce sont les oubliés. C'est eux qui sont au centre, qui ne bénéficient ni de la libéralisation, ni de la redistribution. Et donc, ils sont les oubliés, ils n'ont pas pu s'exprimer. Comme l'a dit très justement Dominique tout à l'heure, on n'a pas entendu leurs revendications. Elles étaient silencieuses parce qu'ils n'étaient pas organisés. Et du même coup, en effet, comme vous le dites, les politiques ne s'intéressent pas à eux, puisque
les intellectuels non plus, pendant très longtemps.
Les intellectuels ne s'intéressent pas à eux, et même quelque part, vous avez raison, on les regardait.
C'est les beaufs,
c'est les ploucs, enfin, il y a toute une série de représentations négatives. On a vu que la classe ouvrière organisée avec ses syndicats défend ses intérêts. On a vu, vous l'avez dit, que les cités, par des formes d'expression violentes, ont défendu leurs intérêts. Eux ne les ont pas défendus.
Puis, et donc, oui, ils ont reçu des milliards d'euros pour des plans de rénovation urbaine, ce qui n'est pas arrivé dans la Creuse.
Et du coup, ils ont, au bout d'un moment, compris, à mon avis, ça s'explique aussi la persévérance du mouvement. Ils ont compris que la seule manière de se faire entendre, c'était à leur tour de descendre dans la rue, y compris de casser.
On verra, mais on peut dire aussi que la gauche et le progressisme en général n'en ont eu, disons, que pour le sociétal, pour les migrants et pour les énergies renouvelables. Et là, on voit avec les gilets jaunes revenir le social plutôt que le sociétal, c'est-à-dire, oui, le pouvoir d'achat plutôt que la PMA pour toutes, et puis également la nation, car je suis frappé par la présence des drapeaux français dans les manifestations et par le fait que on chante non pas Bella Ciao, mais la Marseillaise, et exclusivement la Marseillaise. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à vos analyses, Dominique Régnier, du populisme, quand vous parlez de l'émergence d'un populisme patrimonial, où il n'est pas simplement question de lutter pour un meilleur niveau de vie, alors c'est évidemment très présent, mais aussi de défendre un certain mode de vie. Croyez-vous que ce populisme patrimonial soit également à l'œuvre dans le mouvement des Gilets jaunes?
Moi, j'en vois une expression, effectivement. C'est une expression de ce populisme patrimonial. C'est-à-dire, ça ne signifie pas qu'il a son origine dans des partis populistes. Mais c'est l'expression d'un grand désarroi, voire d'un malaise existentiel de la part d'une large fraction de la société française, celle dont on parle, qui... Soudain, enfin, il lui arrive quelque chose d'absolument dramatique à cette société française-là. Elle a adopté un style de vie qui a été une référence dans ce pays. Denis Oliven a décrit cela à l'instant, je ne vais pas le répéter, mais la famille, les enfants, le pavillon, une vie ordonnée ainsi, sur un territoire familier. Et au fond, les élucubrations ou les pensées sophistiquées des élites parisiennes pouvaient bien se dérouler tant qu'on venait pas les empêcher de poursuivre leur existence. Mais là, ce qui s'est passé depuis quelque temps, ce qui change, c'est que ce mode de vie-là semble ne plus être toléré. Le grand processus de métropolisation est une menace qui pèse évidemment sur eux. Cette affaire du départ des services publics de ces territoires a été quand même, et c'est pas d'aujourd'hui, a été quand même une alerte formidable qui avait pour sens, si vous voulez vous faire soigner, si vous voulez que vos enfants soient éduqués, si vous voulez être en sécurité, rejoignez les métropoles. C'est cela que ça voulait dire. Au moment même où ces Français, avec leur style de vie, avaient le sentiment que les grandes métropoles représentaient une culture, une façon d'être qui ne leur plaisait pas. Alors ils ne faisaient pas là-dessus nécessairement de la politique, ils ne manifestaient pas contre, ils n'avaient pas un jugement à exprimer, mais ils s'en détachaient, ils vivaient à côté. Et les choses auraient pu se passer ainsi. Mais l'idée que désormais il fallait que leur existence redevienne celle de cette norme, nouvelle norme qui est la métropolisation, et qu'on vienne au fond jusque... dans les provinces et les territoires éloignés, périphériques, peut-être qu'on en dira un mot, bousculer ceci, là, ils ont été atteints dans cette dimension patrimoniale que je qualifie de patrimoine immatériel, qui, bien sûr, cohabite avec le patrimoine matériel qui est en crise.
Oui, mais si je peux ajouter un point. Moi, il me paraît que cette nostalgie du passé s'accentue à proportion de ce que l'espérance en l'avenir s'effondre. Le point qui me paraît clé, la révolte des Gilets jaunes est l'expression de la conscience qu'ils ont pris ou du sentiment qu'ils ont que la promesse du modèle français pour eux n'existe plus. La promesse, c'était vous travaillez, vous épargnez, vous vous endettez, vous achetez des maisons, vous achetez des voitures, vous êtes sérieux, vous ne dépendez pas de la protection sociale, très peu, vos revenus sont principalement des revenus de travail, et vous progresserez, et vos enfants verront leur situation s'améliorer. Or, ce qu'on observe dans les chiffres, c'est que si la situation, depuis les 20 dernières années, si la situation de cette classe moyenne est à peu près restée la même relativement à la situation des pauvres, ils ont progressé, leurs revenus ont progressé à peu près de la même manière. Ils ont beaucoup moins progressé que ceux des ménages les plus aisés. Donc ça veut dire très clairement que c'est fini. Vous ne progresserez plus. Vous serez bloqué, vous serez trappé, vous serez pris dans la trappe à la classe moyenne. La perspective de vous enrichir par le travail et par l'épargne, pour reprendre l'expression célèbre de Guido, c'est terminé. Et donc, en effet, la fin de cette espérance, c'est la fin de la promesse du modèle français. Et du coup, la tentation de vouloir protéger ce qui était le passé, une situation plus favorable, est très forte.
Et Alain Finkielkraut, juste imaginons ce qui va se passer à la suite de ce que vient de dire Denis Oliven. Ce qui va se passer si les projets d'alourdissement des droits de mutation se concrétisent.
Des droits de succession ?
Oui.
Ah ben ça va être terrible.
C'est-à-dire qu'en plus, on va dire à ces mêmes personnes, nous interrompons ce plan que vous aviez. Il était devenu très compliqué, vous aviez des raisons d'en douter, maintenant nous le rendons impossible, nous fermons cette option et vos enfants commenceront sans rien comme vous. C'est quelque chose d'invraisemblable. J'espère qu'on en prendra la mesure de cette gravité, parce que là, on passerait de ce que moi j'appelle la crise du consentement à l'impôt à la crise du consentement à l'État. il y a une rupture à ce moment-là possible du pacte politique fondamental.
Il y a un point pardon, qui s'ajoute
c'est
aussi.
C'est aussi Terranova qui réclame justement l'augmentation des droits de succession après nous avoir expliqué que les classes populaires de toute façon ne relèvent plus de l'intérêt de la gauche puisqu'elles avaient basculé dans le protectionnisme, le repli, le nationalisme, etc.
Il y a un point très important aussi dans la rupture de confiance, du pacte de confiance, dans le sentiment que le modèle français ne tient plus les promesses qu'il leur a faites alors qu'ils, eux, contribuent si fortement fiscalement, c'est que la progression très très forte de nos dépenses publiques, on est le premier pays au monde par la dépense publique et par l'impôt, se fait sous l'effet de la protection de la progression des dépenses sociales. Ces dépenses sociales augmentent, moins on a d'argent public pour les services publics, pour le régalien, pour la police, pour la justice,
exactement,
pour l'école. Et donc,
la recherche, oui.
Et donc, ces classes moyennes qui ne bénéficient pas, une fois encore, je le redis, beaucoup moins que les ménages modestes de la protection sociale dans leurs revenus, qui y contribuent fortement par la fiscalité, ils ne comprennent pas comment se fait-il que chaque année ces dépenses augmentent et que pourtant les services qui leur sont rendus diminuent. L'école pour leurs enfants, l'hôpital dans lequel ils vont, la police qui assure leur sécurité. Et ça aussi, c'est une rupture profonde de la confiance dans le modèle français.
Il y a aussi, me semble-t-il, un problème politique, un sentiment de dépossession démocratique chez les Gilets jaunes. Et je crois que ce phénomène a commencé au moment où la France a autorisé le regroupement familial des immigrés, alors même que c'est ça l'immigration de travail. Car c'est ainsi, comme le remarque Marcel Gauchet, que l'un des plus grands changements que la France ait connu, sa transformation en société multiculturelle, a échappé de bout en bout au débat et à la décision démocratique. De même, évidemment, le référendum sur la Constitution, on a voté non, et puis ça a été réintroduit par le traité de Lisbonne. Et puis, il y a le transfert de toutes sortes de pouvoirs vers des instances non élues, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, et maintenant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les Gilets jaunes veulent en revenir maladroitement à la démocratie directe. Mais c'est une manière de dire le peuple est exclu la décision politique. Il faut qu'on tienne compte de ce que nous pensons aussi. Mais j'ajoute très brièvement que quand la question du pacte de Marrakech a été posée, eh bien, les médias ont refusé d'en entendre parler. C'est ainsi d'ailleurs qu'apparaît une nouvelle figure dans l'arsenal rhétorique de l'idéologie contemporaine, c'est-à-dire l'argument d'inexistence. Vous avez par exemple la théorie du genre, il y a une grande révolution culturelle technique qui rend le sexe optionnel, et on vous dit la théorie du genre n'existe pas. De même, le pacte de Marrakech affirme que l'immigration est un facteur de prospérité, d'innovation et de développement durable, et menace de sanctions tout les médias qui s'écarteront de cette ligne, mais on vous dit, le pacte de Marrakech n'est pas contraignant, donc, autrement dit, il n'existe pas, si vous voulez. Le guépard, c'était que tout change pour que rien ne change, et le progressisme aujourd'hui, c'est tout change, mais rassurez-vous, rien ne change. Donc là, on a un sentiment, si vous voulez, d'agacement, d'exaspération, qui est aussi d'une démotivation, me semble-t-il, du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, alors il y a deux aspects, Alain Finkielkraut, dans ce que vous dites. Il y a un aspect, je vais laisser de côté pour ma part, ici aujourd'hui, parce que je pense que c'est pas l'objet de votre émission, qui est la question du progressisme et du progrès, qui est vraiment un point clé, parce que nous sommes dans une phase historique qui nous échappe à tous. Et de toute façon, oui, nous sommes en progression.
Mais vers quoi ?
Vers quoi, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus qui contrôle quoi. Donc ça, c'est un aspect très particulier de notre contemporanéité. Je laisse ça de côté. Mais dans l'autre aspect qui est, au fond, cette manière dont cette partie de la société française se retrouve dans cette situation, au fond, je vais prendre un exemple que vous avez évoqué à l'instant. Je l'ai regardé au niveau de l'Europe. C'est dans mon travail sur le populisme. L'immigration depuis les années 60 est certainement l'un des plus grands phénomènes qui soit arrivé aux Européens. Oui. Et c'est bouleversant. À tout point de vue, il est impossible de dire que ça n'est pas un bouleversement complet, qui est en cours d'ailleurs, qui ne s'est pas achevé, loin de là. Il n'y a eu dans aucun pays, aucune démocratie européenne, il n'y a eu aucun débat à ce sujet. Vous citiez Marcel Gauchet, mais moi je le faisais remarquer pour tous les pays de l'Union européenne, et je rappelais à cet égard que c'est quand même quelque chose qui a de l'intérêt aujourd'hui. En avril 1968, Enoch Powell, au Royaume-Uni, député conservateur, mais tout à fait éclairé, faisait un discours pour alerter les démocraties sur cette absence de débat, sur un sujet qu'il voyait, lui, dans sa circonscription, devenir dramatique. Il a été immédiatement censuré par son parti, par la BBC, etc. Le ciel, les Beatles ont fait une chanson contre lui. Quand même, il s'est pris cet énorme train que sont les Beatles sur la tête. Il y a eu une manifestation de soutien de mineurs, d'ouvriers mineurs devant Westminster, c'est quand même symptomatique, 1968, et depuis, dans aucune démocratie européenne, le sujet de l'immigration n'a été considéré comme pouvant faire l'objet d'un débat. C'est beaucoup plus que le traité de 2005, qui a fait l'objet d'un débat, d'un vote négatif, et ensuite d'un traité de Lisbonne. Mais je veux quand même rappeler, parce que vous avez le souci de la précision, Alain Finkielkraut, que Nicolas Sarkozy était le seul des trois grands candidats en 2017, Bayrou et Ségolène Royal pour les deux autres, avoir dit si je
en
suis...
En 2012
2007.
2007, pardon,
si je suis élu président, je ne ferai pas un nouveau référendum. Et il l'a répété le soir du premier tour, avant le second tour, tandis que François Bayrou et Ségolène Royal avaient dit, si nous sommes élus, nous ferons un deuxième référendum. Les Français ont quand même voté pour Nicolas Sarkozy, avec à l'esprit cette information que lui, à la différence des deux autres, ne ferait pas de référendum. Ça n'enlève pas le grand problème qui a été de ne pas suivre ce résultat, mais ça, faut quand même rappeler que les termes avaient été posés, je trouve, de manière relativement claire.
Peut-être est-ce mon péché d'économisme, mais je me dis que la crise de la représentation dont les Gilets jaunes sont l'expression a quelque chose de plus profond que ça, si j'ose dire, parce qu'il y a un paradoxe français, un mystère français. C'est que si vous prenez tous les critères objectifs du bien-être, la France est l'un des pays les mieux lotis du monde. Que vous preniez le niveau de vie par habitant, l'évolution de ce niveau de vie au cours des 20 dernières années, que vous preniez l'égalité entre les plus pauvres et les plus riches. Enfin, par quelque bout que vous le preniez, on est sans doute l'un des pays dans lequel le niveau de bien-être est le plus important. Et pourtant, dans toutes les enquêtes mondiales, on est le pays le plus malheureux, le plus pessimiste, le plus déprimé. Pourquoi ? Il y a eu des ouvrages très intéressants écrits sur notre modèle. Comment notre modèle, la société de défiance, fabrique de l'inégalité entre les gens, désunit le pays. Mais ce qui se passe, à mon avis, là, encore de manière plus ponctuelle, et qui explique cette défiance des classes moyennes, c'est que ils avaient l'espérance, leur espérance a été trois fois déçue politiquement. Elle l'a été par Nicolas Sarkozy, crise de 2008. Elle l'a été par François Hollande, on vient de le dire, il a pris des mesures prétendument sociales, mais qui ont frappé ces classes moyennes. Et elles viennent de l'être par Emmanuel Macron. Et donc, ils ont essayé la gauche, ils ont essayé le dégagisme positif, le dégagisme progressiste, et à chaque fois, ils ont le sentiment que leur condition ne s'en est pas améliorée. Et c'est, à mon avis, moins la question de l'immigration, moins la question de l'Europe que la situation, que la question de leur propre situation économique et sociale. Et donc voilà, ils sont désespérés d'une classe politique qui, quelles que soient les formes les alternances, conduit toujours une politique à leur détriment. Et c'est ça qui explique la crise de la représentation à leurs yeux.
Juste, Denis Olivette, je pense qu'on peut pas contester que l'intérêt public, élite journalistique et politique, pour les problèmes rencontrés dans les quartiers qui sont constitués dans le prolongement de l'immigration est mille fois supérieur à l'intérêt qu'on a pu
constater. Non, mais évidemment, je suis d'accord avec le fait qu'ils ont été l'objet d'un déni, des dénis d'intérêt des élites. C'est évident, je suis tout à fait d'accord.
Déni et mépris. Et simplement, dans le malheur, enfin, dans cette désespérance, il n'y a pas que du ressenti, il n'y a pas que de l'économie, il y a aussi la fracture française, les professeurs qui vont faire le cours la peur au ventre, et quand ils le disent dans leur hashtag « pas de vague », ça ne crée pas beaucoup de vagues, précisément, dans les médias. Et puis, quand 1000 voitures sont incendiées pour la Saint-Sylvestre dans les banlieues françaises, on n'en parle pas. Et ça, pourtant, voir avec les Gilets jaunes, puisque si les Gilets jaunes habitent au-delà de la banlieue et non pas simplement au-delà du périphérique, pour reprendre l'expression de Christophe Guilluy, c'est aussi parce que ils ne se sentent plus en sécurité dans les banlieues françaises. Mais maintenant, je voudrais en venir quand même, sinon à la critique de ce mouvement, mais à l'inquiétude qu'on peut exprimer devant l'emballement. C'est-à-dire, on a parlé des revendications initiales. Quand elles sont satisfaites, on vous dit, certains gilets jaunes vous répondent, c'est des miettes. Quand Emmanuel Macron fait acte de contrition, on dénonce son arrogance. Et on a le sentiment, au contraire, quand on voit les gilets jaunes sur les plateaux de télévision, que la morgue a changé de camp. Ils font preuve d'une arrogance incroyable. Ils disent, mais non, mais ça va pas. Le débat, on va pas y participer. On veut du concret. 10 milliards d'euros, c'est des miettes. On dirait des lycéens. Donc, il y a un emballement que j'ai du mal à comprendre et qui est d'autant plus inquiétant que les gilets jaunes poussent le refus de la représentation jusqu'à la volonté de ne pas avoir eux-mêmes de représentants, c'est-à-dire ils veulent qu'on les écoute et ils désavouent tous leurs porte-parole. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Denis Oliven ?
Le premier paradoxe, c'est que finalement Emmanuel Macron est l'objet de leur courroux, alors que c'est sans doute celui qui a de manière la plus aiguë récemment compris le sujet de ces classes moyennes. Dans son livre Révolution, il leur avait consacré 20 pages. Et dans les mesures qu'il a prises, certaines, en particulier sur la CSG, je parle pas de la CSG sur les personnes âgées, mais sur les mesures en faveur du travail étaient faites pour favoriser ces classes moyennes. Et la taxe d'habitation. Donc, il y a un paradoxe à ce que ce soit celui qui peut-être avait le plus compris le sujet, avait commencé de le traiter, qui en soit la victime. Mais ce point étant posé, je pense que ce qui se produit, ce sont les effets de toute mobilisation de masse inorganisée. C'est le basisme de ce type de mouvement. Et le fait qu'aujourd'hui il se soit radicalisé, c'est aussi le fait que ne restent que les irréductibles. Une bonne partie avait 250 000 manifestants au début, il y en a 25 000 aujourd'hui. Donc ceux qui ne manifestent plus sont ceux qui ont considéré qu'en effet les mesures qui avaient été prises méritait qu'on s'y intéresse. Donc il y a un effet de radicalisation parce que ceux qui restent sont les jusqu'au boutistes. S'ajoute à ça tout de même, Jacques Julliard l'a dit dans un article brillant du Figaro récemment, que pour reprendre des catégories de la gauche d'il y a quelques décennies, quand il y a un mouvement social de la classe ouvrière, son risque principal, c'est sa dérive, c'est le stalinisme. Quand c'est un mouvement de la petite bourgeoisie, son risque principal, c'est l'extrémisme de droite. D'un côté, il y a des traditions de lutte sociale collective, de l'autre, des attitudes individualistes. Ils ne sont pas organisés collectivement et c'est ça qu'on voit apparaître. Donc, radicalité parce que moins de gens, individualisme du rapport avec la politique et puis, comment dirais-je, basculement à droite d'une partie de ce, ou à l'extrême droite d'une partie de ce mouvement, c'était sans doute dans le programme génétique initial de cette explosion.
Vous êtes d'accord avec ça, Denis Crénier ? Moi, j'aurais une objection.
Moi, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, quand on le compare au moment initial, a été dévoyé et que cette façon de le capter, de le biaiser, est une autre façon de ne pas parler, de ne pas représenter ces classes moyennes dont nous discutons depuis le début de votre émission, les Figaro. C'est frappant de voir comment ce mouvement s'est retrouvé, au fond, piégé médiatiquement et politiquement, comme si, décidément, cette France-là ne parvenait pas à bénéficier des mécanismes de représentation et de mise en scène, en quelque sorte, sans être victime de cela. On a vu, bien sûr, des minorités politiques professionnelles faire miam-miam devant la mobilisation de ces gilets jaunes et s'efforcer aussitôt de côté de Mélenchon comme de Marine Le Pen et de ces univers-là d'en tirer bénéfice. Ça a été immédiat. Et tout d'un coup, par exemple, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, est devenu une espèce de revendication centrale chez les Gilets jaunes, ce que je conteste, moi, formellement. Je pense que c'est pas du tout ce qu'ils demandent. Ils veulent vivre leur vie avec leurs amis, leurs enfants, leur famille, leur métier, leur pays. Ils ne sont pas passionnés à l'idée de se précipiter tous les jours pour aller participer à un débat référendaire.
Dominique Reynier, tout n'est pas venu de l'extérieur. Ils y mettent un peu du leur. D'abord, on voit des Gilets jaunes eux-mêmes de la première heure, menacés de mort, les Gilets jaunes modérés, comme Ingrid Levavasseur ou bien Jacqueline Mourault, qui veulent jouer le jeu de la concertation, qui admettent que des concessions ont été faites, et ces Gilets jaunes, si vous voulez... D'ailleurs, moi, je ne vois pas comment on peut parler de fascisme, parce que, à la différence des mouvements fascistes, et même des mouvements populistes, il n'y a pas de culte du chef. Simplement des Gilets jaunes forts en gueule, comme ce Maxime Nicole ou Ducret. On les entend beaucoup, mais il n'y a pas de leader. Simplement, il y a, semble-t-il, un refus de jouer le jeu de la concertation démocratique.
Mais Alain Figaro, c'est un mouvement, nous sommes, je crois, d'accord pour le constater, qui depuis des décennies, cette partie de la France, n'a pas été écoutée par les mécanismes de représentation. C'est aujourd'hui, dans cette insurrection, une forme d'insurrection contre les mécanismes de représentation politique et médiatique. La conséquence de cela, en tout cas aujourd'hui, à court terme, peut-être pas demain, c'est qu'il n'y a pas tous les effets vertueux de la représentation. Il n'y a pas les partis, les syndicats, les médias pour filtrer, pour trier, pour faire apparaître des personnes qui savent davantage discuter, qui peuvent contribuer à un compromis. Nous avons des orateurs, mais pas des représentants. Et s'il n'y a pas de filtre, l'orateur qui va être privilégié, c'est celui qui sera le plus fort en gueule, probablement, celui qui pourra faire les choses, montrer les images les plus spectaculaires, et boxer un policier, c'est très spectaculaire, et on a un héros qui surgit, entre guillemets, un héros très négatif, évidemment. Je ne dirais pas que c'est leur héros, mais je dirais que c'est peut-être le héros des médias, ce qui n'est pas la même chose. Il y a une ambiguïté là sur ce que nous prêtons comme idée aux Gilets jaunes dans leur ensemble. Je parle du mouvement initial, pas des manifestants qui continuent aujourd'hui, ça me paraît être assez différent. Et bien sûr, il existe des cas, et vous y avez fait référence, je ne parle pas des noms que vous avez cités, mais d'individus qui se comportent d'une façon extraordinairement violente et menaçante, et qui ont des comportements de golpistes ou de factieux. Mais ça, ce sont précisément ces individus qui existent toujours dans les communautés politiques, mais que les systèmes de représentation, médiatiques ou politiques, tiennent à l'écart. Ils ont sauté ces systèmes. Donc nous sommes à plat, en quelque sorte, confronté à cette réalité elle-même dans sa diversité. Il faudra sans doute une formalisation, sortir de cette anomie, pour que le mouvement initial des Gilets jaunes, qui contient une grande vérité, puisse s'exprimer avec beaucoup plus d'efficacité.
Il me semble aussi, c'est une hypothèse, je ne peux pas la vérifier, mais il me semble aussi que ce qui pose un problème à l'expression politique des Gilets jaunes, c'est l'effondrement des Républicains. Parce que le débouché naturellement, l'expression politique naturelle de ces classes sociales, c'est la droite. C'est d'ailleurs ce qu'avait intuité Nicolas Sarkozy, ce qu'a assez bien compris Wauquiez en théorie, mais qu'il n'a pas exprimé. Et donc, il était normalement ces classes... En gros, si je schématise, peut-être vais-je dire une grosse bêtise et Dominique la corrigera, mais les ménages modestes non éduqués votent Marine Le Pen, les ménages modestes éduqués votent Mélenchon, les ménages aisés éduqués votent Macron, et les ménages aisés, en tout cas ces classes moyennes là non éduquées votent pour la droite traditionnellement. Or la droite n'a pas pris en compte leurs revendications. C'est la droite qui aurait dû porter. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays voisins.
François Fillon avait tenté de le faire.
Peut-être, mais en tous les cas...
À cause des affaires ou de la manière dont elles ont été gérées par le parquet national financier, à chacun d'en juger, il a été disqualifié lors de la présidentielle, mais ce qu'il voulait incarner, c'est une droite conservatrice, au grand dam, justement, de la gauche sociétale, pour qui la manif pour tous est pire que le fascisme, une droite conservatrice et libérale, et aussi identitaire. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et bon, et ça a explosé en vol. Wauquiez veut ramasser les morceaux et visiblement, il n'y arrive pas. Et là, vous avez raison.
Mais en tout cas, le débouché politique naturel de ces classes moyennes, compte tenu de leurs revendications, c'est une droite républicaine, en effet, qui soit orientée en termes de redistribution, non pas vers augmenter encore la protection sociale pour les plus pauvres, augmenter encore la fiscalité, mais essayer d'alléger le poids de la fiscalité sur les classes moyennes et de favoriser le travail. J'ajoute un deuxième élément, à mon avis, qu'il y a quelque chose de rationnel, quelque part, dans l'irrationalité du mouvement. Le fait que ce mouvement perdure, même sous des formes, vous l'avez dit tout à l'heure, même sous des formes qui sont tout à fait contestables et insupportables même, est une façon de dire... On ne va pas vous lâcher. On sait que si on rentre chez nous, il ne se passera rien. Vous allez revenir à vos trucs traditionnels. Donc, presque inconsciemment, ceux qui restent disent « On va continuer de vous embêter, pour le dire poliment, jusqu'à ce que vous preniez des mesures dont on a besoin. »
Il y a, sur la question de la droite, c'est un de nos drames, ça. Dans une démocratie, c'est un drame, qu'on soit de gauche ou de droite. On peut l'admettre. La droite française, en dépit des intuitions de quelques leaders politiques, quand elle gouverne, ne se distingue absolument pas de la gauche sur le plan de la politique fiscale ou de la politique sociale. Il n'y a aucune différence. C'est un continuum effrayant. Effrayant du point de vue, je dirais, de la liberté de l'esprit. Entre quoi et quoi a-t-on donné le choix aux électeurs? Si vous regardez l'évolution des prélèvements obligatoires, sous Giscard déjà, entre 74 et 81, on passe de 33% à 40%. On franchit les 40 avec Giscard, qui n'était pas de gauche. Et ainsi de suite. Et vous n'avez ensuite, avec la série des présidents et des majorités, aucune inflexion significative. C'est toujours une pression fiscale plus importante, toujours une politique sociale plus dépensière et toujours des réglementations supplémentaires, notamment en matière d'écologie. Je rappelle que la droite s'est convertie à une écologie de gauche assez massivement à partir du principe de précaution de Chirac, assez massivement ensuite, et que même les agriculteurs ont cessé dans les années 90 de reconnaître en la droite un parti qui avait au fond leur sympathie et qui connaissait la condition de vie des agriculteurs. Donc c'est une droite qui a disparu dans sa singularité et qui n'a jamais cherché vraiment, sauf dans les campagnes électorales, à réaffirmer cette part qu'on attendait d'elle.
Reste donc face, dans ce paysage politique sinistré, un populisme sans chef. Mais je voudrais quand même vous interroger, pour finir, et puisque l'acte 9 a commencé aujourd'hui, sur la violence. Un mot sur la violence. Elle est terrible. Vous avez parlé du boxeur. Le boxeur, ça s'est fait en deux temps. Il y avait le moment du duel, effectivement, où il affrontait un policier avec ses poings. On pouvait trouver ça esthétique ou chevaleresque. C'était terrible, mais bon. Mais il y a eu le deuxième moment où l'autre policier était à terre et il l'a frappé avec d'autres gilets jaunes d'ailleurs. Et c'était un spectacle terrible qui rappelait ce qui s'était passé à l'Arc de Triomphe. Et ça relève, non pas du duel, mais d'une lyncharge, voire du pogrom. Et là, on se dit, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est comme si le processus de civilisation, si bien décrit par Norbert Elias, était en train de s'inverser et que c'est une forme d'ensauvagement du monde parce que cette violence accompagne aujourd'hui toutes les manifestations. Elle a eu lieu en marge de Nuit Debout, elle a eu lieu pendant la loi travail et les flics sont des cibles, mais quand ils sont tout seuls, c'est à 20 contre 1. Et quand on voit la tolérance de certains à ce type de violence, on était effaré parce qu'en 68, on a eu ce slogan obscène CRSSS, mais rien ne suivait. Les actes ne suivaient pas les mots. C'était la beauté de 68 d'ailleurs. Les mots, pas des actes. Mais là, les actes suivent. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, jusqu'où ira-t-on? De quoi cela témoigne-t-il dans notre société?
Ah, ça, c'est un point clé. En effet, vous avez bien raison d'insister là-dessus. C'est, de mon point de vue, on pourrait, je ne le ferai pas, je vous rassure tout de suite, faire la généalogie de la dégradation profonde de la démocratie française en prenant un indicateur électoral et on dirait que ça commence au moins en 1983 et ça n'a pas cessé ensuite de s'amplifier jusqu'à l'élection de 2017 qui était elle-même un record et peut-être battue, en tout cas je le crains, par l'élection suivante. Mais nous étions dans la dissidence électorale. Maintenant nous sommes dans le passage à l'acte. C'est ça qui a changé et nous ne reviendrons plus à la société politique pacifiée. Nous sommes entrés dans la violence physique, la vraie violence. On peut enfoncer la porte d'un ministère. On peut s'en prendre effectivement, comme pour le lyncher, et on a l'impression qu'ils veulent sa mort à un policier en groupe dans une meute furieuse, quand elle n'est pas enivrée d'ailleurs, parce qu'on a vu ça aussi. Des bagarres entre gilets jaunes, des bagarres de gilets jaunes contre des automobilistes qui passaient, nous avons vu cela. Nous sommes rentrés dans cette période-là. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est un point qu'il faut souligner et partager cette réflexion avec nos auditeurs. Les racines de la démocratie en France ne sont pas profondes. L'histoire est ancienne, mais les racines ne sont pas profondes. Je veux dire par là que les points d'attachement, ce qui rive ce pays à un ordre démocratique, n'est absolument pas dissociable de conditions matérielles dans lesquelles, au fond, l'existence des individus se déroule, et notamment dans son rapport à l'État. Et ce rapport-là est si dégradé, et on voit assez mal d'ailleurs comment il peut s'améliorer significativement dans les années qui viennent. C'est un raisonnement, je me rends compte en m'écoutant, qui est un peu morose et très pessimiste, mais doit nous faire penser que réellement, sans se payer de mots, nous sommes sortis du consensus sur la nature démocratique de notre pays, et nous entrons maintenant, y compris par la violence, dans une immense confrontation qui peut nous amener, en effet, réellement, et moi je le crois, à sortir de ce régime pour entrer dans une expérience autoritaire.
Oui, évidemment, pour conclure, évidemment ces violences sont insupportables, et plus insupportables à mes yeux encore, le soutien que leur apportent des élus de la République, qui couvrent de leur autorité et de leur légitimité des atteintes profondes à l'état de droit, à la démocratie, aux valeurs fondamentales de la République. C'est ça qui me choque, moi.
Et la violence, un certain nombre d'individus dans leur chair aussi, quand même.
La violence de ces... Alors, je ne voudrais pas pêcher par un optimisme candide, mais l'histoire des mouvements sociaux est toujours l'histoire de la violence. Cette violence, elle nous choque, nous, parce qu'en effet, on en avait perdu l'habitude. Mais les mouvements spontanés de révolte, et notamment du monde rural, dont sont issus pour la plupart les gilets jaunes, ces révoltes du monde rural sont toujours violentes. Le fait de brûler des préfectures, d'attaquer les forces de l'ordre, la dégradation, enfin cette manifestation de la colère, elle est aussi ancienne que les mouvements spontanés, les jacqueries ou les révoltes rurales, les révoltes populaires lorsqu'elles ne sont pas organisées par les syndicats et les partis traditionnels. Donc c'est simplement pour relativiser, c'est pas du tout pour justifier, c'est pour relativiser ces explosions de violence.
On ne s'en est pas pris qu'à l'État, hein. On s'en est pris aussi à des personnes jugées plus riches que vous.
Mais on s'en est pris à des élus de la République.
Ces manifestations-là de la violence, aujourd'hui, elles nous choquent parce qu'on en a perdu l'habitude, mais elles étaient traditionnelles. Enfin, chaque fois qu'il y a eu des explosions de violence populaire, on a vu ça, les effigies brûlées, on a vu... Donc on s'est tellement désaccoutumé de cette violence, parce qu'on est tellement habitué à la violence organisée des syndicats, enfin, violence entre guillemets, les casseurs des fins de manif, ou à la violence des cités, qu'on a oublié ce que c'est que l'explosion du monde rural.
C'est qu'on soit habitué à la violence des cités. En tout cas, merci beaucoup Dominique Régnier, merci beaucoup Denis Oliven. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La tolérance est-elle une vertu ?» Mes invités sont Claude Habib et Pierre Manant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Yvan Charby. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.